Il est 18h, merci à vous d'écouter Europe 1.
6 mois après la disparition de Delphine Jubillar, son mari Cédric Jubillar est mis en examen ce soir pour meurtre aggravé et écroué.
Devant le juge, Cédric Jubillar a maintenu ses déclarations. Il n'est pour rien, dit-il, dans la disparition de son épouse.
Moscou submergé par les contaminations au variant Delta, il représente 90% des nouveaux cas. La Grande-Bretagne massivement touchée elle aussi, mais pas la France, où il représente seulement 2 à 4%.
La réouverture des boîtes de nuit, ce sera pour début juillet, mais attention avec un pass sanitaire et un protocole qui n'enchante pas vraiment les patrons de discothèques.
L'Iran se choisit un président, élection présidentielle sur fond d'abstention et de crise économique et sociale.
Cannes veut faire un geste pour la planète. Le festival répond à ses détracteurs et dévoile une sélection éphémère, spéciale climat. 7 films seront présentés hors compétition.
La Bourse de Paris en net repli ce soir, moins 1,46% à 6569 points.
La météo, bonsoir Anissa Dadi.
Bonsoir Isabelle.
Et les orages qui malheureusement, ça y est, sont de retour déjà.
Oui. Une petite journée de répit, voilà ce que nous avons eu. Les orages sont de retour, en effet Isabelle, ils arrivent demain par l'ouest. Le Rhône reste d'ailleurs en vigilance orange canicule, il va faire chaud encore demain sur Lyon et sa région. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
L'enquête sur la disparition de Delphine Jubillar après 48 heures de garde à vue. Son mari, Cédric Jubillar, a donc été mis en examen pour meurtre aggravé et écroué.
Et il maintient pourtant sa version des faits et continue de clamer son innocence. Son avocat fait remarquer que l'on ne sait toujours rien des causes du décès, ni même de sa réalité. Le procureur de la République a lui tenu une conférence de presse cet après-midi pour donner les tout derniers éléments de l'enquête, Benjamin Peter.
Oui, le procureur qui a détaillé les éléments troublants, les incohérences de Cédric Jubillar concernant le déroulé des faits de cette nuit du 15 au 16 décembre. Tout d'abord, le peu de temps qui s'est écoulé, 16 minutes à peine entre le moment où il dit avoir constaté la disparition de Delphine et le moment où il appelle les gendarmes. Il y a également cette machine à laver contenant la couette sur laquelle dormait son épouse qui tournait à l'arrivée des gendarmes, vraisemblablement à l'initiative de Cédric Jubillar. Et puis autre élément, ce véhicule, celui de Delphine, qui a été déplacé alors même que Cédric Jubillar n'a pas le permis et dont les vitres laissaient apparaître de la condensation. Les expertises confirmeront qu'elle est consécutive à une présence humaine. Et enfin, contrairement à ce qu'il a toujours affirmé, cette dispute qui aurait éclaté entre les deux époux un peu après 23 heures, Louis, son fils de 6 ans, dit avoir entendu des cris, tout comme deux voisines.
Juste après 23 heures, deux voisines, une mère et sa fille, vont entendre en direction du domicile de la famille Jubillar, des cris stridents et de détresse d'une femme qui vont effectivement les interpeller et qui vont progressivement disparaître et s'arrêter dans la nuit. Ce sont des éléments auxquels M. Jubillar ne donne pas de réponse crédible.
Alors il a été mis en examen pour meurtre par conjoint et placé sous mandat de dépôt. Le procureur qui indique par ailleurs que les investigations vont se poursuivre sans relâche pour retrouver Delphine Jubillar, mais aussi sur la personnalité de Cédric Jubillar, dont il ressort selon lui une forme de déni, lui qui a fait un deuil très rapidement, parlant presque immédiatement de son épouse au passé.
Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse.
Si l'épidémie de Covid s'éloigne, le variant Delta continue de faire planer la menace d'une reprise des contaminations.
À Moscou, il représente 90% des nouveaux cas, 9000 infections en 24 heures dans la capitale russe qui ferme les fan zones de l'euro. Ce variant sévit aussi de plus en plus en Espagne, en Allemagne et en Grande-Bretagne, où le Premier ministre a repoussé au 19 juillet la dernière étape du déconfinement. Qu'en est-il de la situation en France, Anne Le Gall?
Alors en France, ce variant reste largement minoritaire avec 2 à 4% de cas positifs selon Olivier Véran. Mais le nombre de cas a quadruplé en 3 semaines avec 50 à 150 diagnostics par jour aujourd'hui. Et les autorités sanitaires ont détecté plusieurs foyers de transmission communautaire dans les Landes, à Strasbourg, en Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. À chaque fois, des mesures de dépistage ciblées ont été mises en place. Mais il y a un risque que ce variant Delta devienne majoritaire car il est plus contagieux que le variant britannique. Pour le docteur Daniel Lévy-Brul, épidémiologiste à Santé publique France, malgré la baisse encourageante des contaminations, des hospitalisations, l'épidémie n'est pas terminée.
Le virus est toujours là, il circule et comme ça a été mentionné, on reste sous la menace de la diffusion du variant Delta, même si on a comme arme l'effet saisonnier qui devrait être favorable et surtout la montée en charge de la vaccination.
Effectivement, selon une étude britannique, les vaccins à ARN messager et AstraZeneca restent efficaces contre le variant Delta à plus de 90%, mais à condition d'avoir bien reçu les 2 doses et dans l'intervalle donc, les gestes barrières, la distance, le port du masque restent plus que jamais d'actualité.
Les précisions importantes d'Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Vous savez que depuis avant-hier, la France a supprimé l'obligation du port du masque à l'extérieur. La fin du couvre-feu est actée pour ce dimanche, dimanche matin à 6h. Et les boîtes de nuit, Christophe, vont-elles aussi pouvoir ouvrir?
Réouverture envisagée début juillet, mais le protocole sanitaire n'incite pas vraiment à la fête, Angèle Châtelier.
Non, parce que ce qui est le plus probable, c'est que pour aller danser en boîte, il faille montrer un pass sanitaire. Mais cela implique plusieurs problèmes. Les jeunes, ceux qui y vont le plus, sont loin d'être tous entièrement vaccinés. Seulement 8% des 18-29 ans. Auquel cas, pour aller se déhancher, ils devront montrer un test antigénique négatif. Ce n'est pas vraiment dans l'ADN des discothèques de prévoir d'y aller. Et surtout, c'est injuste par rapport aux bistrots et bars de nuit qui n'ont pas cette contrainte du pass sanitaire. C'est ce que déplore Patrick Malves, président du syndicat des discothèques.
Donc on va pouvoir continuer à danser dans les bistrots, dans les restaurants ambiance musicale, faire la discothèque qui ne dit pas son nom, dans les clubs de plage de l'été, etc. Et pas dans les discothèques. Il faut arrêter de se moquer du monde.
Prévoyez aussi de devoir porter un masque sur le dance floor et de ne pas pouvoir consommer debout, mais seulement sur la table avec vos amis. Et les fumoirs seront fermés. Toutes ces contraintes sont intenables, nous dit Thierry Fontaine. Il s'occupe de la branche nuit au syndicat hôtelier Lumi. Selon lui, personne ne viendra.
Si le gouvernement cherche une discothèque test, je lui conseille de trouver une prison avec un quartier de haute sécurité.
Il y aura aussi une jauge limitée à 65% au moins en juillet. Emmanuel Macron doit dessiner les contours de la réouverture des boîtes de nuit ce lundi à l'occasion de la fête de la musique.
Angèle Châtelier du service culture d'Europe 1.
Comment se dire adieu? Emmanuel Macron est à Berlin pour un dîner avec Angela Merkel pour préparer le Conseil européen la semaine prochaine. L'une des dernières occasions pour le président français d'avoir un tête-à-tête avec la chancelière dont le mandat arrive à son terme.
Emmanuel Macron qui a présidé ce matin au mémorial du Mont-Valérien, la cérémonie militaire pour le 81e anniversaire du 18 juin 1940, Louis de Gragnel.
Oui, pour cet anniversaire, Emmanuel Macron a rendu hommage à deux vétérans. Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, ainsi qu'à Léon Gauthier, le dernier survivant du commando Kieffer. Et une femme cette année, la résistante de 92 ans, Colette Marin-Catherine. Le chef de l'État a d'abord reçu à l'Élysée Léon Gauthier et Colette Marin-Catherine, deux personnalités marquées par leur souci de transmission de la mémoire de la résistance et de ses valeurs, selon l'entourage d'Emmanuel Macron. Quelques minutes plus tard, le président a profité de la cérémonie qui s'est tenue au Mont-Valérien pour décorer de la médaille militaire quatre soldats qui se sont illustrés en opération extérieure. Faisant très attention à sa gestuelle, Emmanuel Macron s'est ensuite approché d'Hubert Germain en serrant les mains de l'ancien combattant, désormais centenaire. Pour terminer, un chiffre à retenir, seules 1038 personnes ont reçu le titre de compagnon de la Libération.
Louis de Ragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1, on sera en Iran où se tient aujourd'hui une élection présidentielle dans un pays rongé par la crise économique.
Et puis Cannes repeint son festival en vert.
A tout de suite. 18h09, c'est la suite du journal de Christophe Lamar sur Europe 1 et l'Iran qui se choisit un nouveau président aujourd'hui. Mais le cœur des Iraniens n'y est pas vraiment.
Le pays traverse une profonde crise économique, un scrutin qui ne soulève pas l'enthousiasme des Iraniens. Les candidats ont d'ailleurs peu à peu déserté la campagne et dans ces conditions, l'abstention promet d'être importante. On vote depuis ce matin et on pourrait voter jusqu'à 2h du matin, voire toute la nuit. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes notre envoyé spécial à Téhéran.
C'est ça, tout est fait pour limiter l'abstention. Ici, les Iraniens votent sous le regard des ayatollahs Khomeini et Khamenei, deux immenses posters déployés sur les murs d'une imposante mosquée et devant lesquels passe Abdoulaye. Il dit être venu aux urnes parce que son candidat l'a appelé à l'aide.
C'était lors d'un débat télévisé. Il nous a demandé d'aider le pays en votant. La dévaluation de notre monnaie face au dollar, c'est une forme de guerre. Donc si je vote, je viens à l'aide de la situation économique de mon pays.
Il s'est décidé subitement, ce ne sera pas le cas de Farzaneh, une fonctionnaire qui veut encore prendre son temps et même un peu d'air avant d'aller voter.
On a jusqu'à 2h du matin pour venir voter. Alors comme nous avons de belles montagnes à Téhéran, je vais aller faire une petite randonnée pour réfléchir.
Une réflexion somme toute limitée puisque parmi les 7 candidats, 3 ont jeté l'éponge dans les dernières heures, laissant un peu plus le champ libre aux candidats conservateurs.
Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 à Téhéran. L'ONU publie un rapport inquiétant sur ceux que l'on appelle les déplacés, les personnes qui cherchent à fuir les crises et les guerres.
Leur nombre a doublé en 10 ans. 82 millions de personnes ont quitté leur pays pour fuir les persécutions et les exactions. Et la pandémie n'a pas freiné ce désir d'exil, selon l'agence. Cela donne aussi souvent des drames. 4 personnes, dont une femme enceinte, sont mortes au large des Canaries après le naufrage de leur bateau qui transportait 49 migrants. 4 autres sont portées disparues.
En Pologne, le gouvernement s'en prend à la Russie accusée de cyberattaque.
Varsovie a mené son enquête et l'assure. L'attaque informatique qui visait des hauts responsables politiques polonais, eh bien, elle est d'origine russe.
L'Euro de football en attendant, bien sûr, l'équipe de France demain après-midi face à la Hongrie. Et il y a deux matchs au programme ce soir.
Croatie-République tchèque, la rencontre a débuté à 18h et toujours 0-0 entre les Croates et les Tchèques. Et puis ce soir à 21h, l'Angleterre affrontera l'Écosse.
Bientôt le festival de Cannes, c'est paillettes, c'est jet, c'est yacht, c'est décapotable. Un festival qui veut tourner la page.
Oui, et il a été beaucoup critiqué pour son peu d'intérêt pour la cause environnementale. Cannes prend un tournant cette année et annonce une sélection très écolo, Mathieu Charrier.
Oui, avec une sélection spéciale, le cinéma pour le climat. Alors, 7 longs métrages y figurent, ils ont été annoncés aujourd'hui. Par exemple, La Croisade de Louis Garrel, coécrit avec Jean-Claude Carrière. Fable d'anticipation dans laquelle les enfants prennent le pouvoir pour protéger la planète. Aïssa Maïga, elle réalise Marche sur l'eau. L'autrice est allée au Niger, filmer un village victime du réchauffement climatique et de la sécheresse. Cyril Dion, vous vous en rappelez peut-être, réalisateur de Demain qui avait cartonné en salle. Eh bien, Cyril Dion revient avec Animal, dans lequel il alerte cette fois sur l'extinction des espèces en suivant deux adolescents engagés. Enfin, dernier exemple, La Panthère des Neiges. Si vous aviez lu le livre de Sylvain Tesson, eh bien, une caméra les suivait dans leur quête du félin et ça donne donc un film. Voilà, 7 longs métrages cinéma pour le climat qui viennent en complément d'actions décidées par le festival. Par exemple, les voitures, vous savez, qui accompagnent les stars jusqu'au tapis rouge, 60% seront désormais hybrides ou électriques. Les impressions papier diminueront de moitié. Les traiteurs devront utiliser des produits de saison et locaux. Les bouteilles d'eau en plastique seront supprimées. Il y en avait quand même 22 000 utilisées lors de la dernière édition. Et puis, chaque festivalier devra régler, dès cette année, une contribution environnementale de 20 euros.
Ah, c'est dit. Mathieu Charrier,
j'ai payé la mienne, d'ailleurs.
C'est déjà fait ?
Oui, ben oui.
Il y a intérêt ?
Mathieu Charrier, chef du service culture d'Europe 1.
Merci Christophe Lamarre. On vous retrouve à 18h30 pour le rappel des titres de l'info et à 19h bien sûr pour un nouveau journal. Tout de suite la météo.
La météo avec l'assurance habitation BNP Paribas. L'assurance habitation qui s'adapte à vos besoins. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
Anissa Haddadi, une nouvelle dégradation orageuse arrive.
Et oui Isabelle, fin de la pause. Cette nuit, en effet, une nouvelle dégradation arrive par l'ouest. Les orages vont d'abord toucher cette nuit le littoral atlantique. Très rapidement, ces orages vont gagner du terrain. Ils vont s'enfoncer dans le pays. Sur la Gironde, le Limousin, les Pays de la Loire, les orages pourraient être forts. Alors pour l'instant, nous n'avons pas de vigilance orange, mais ça risque d'arriver tôt demain matin, aux alentours de 6h du matin. On va surveiller ça de près. Demain matin, les orages vont remonter vers les Pays de la Loire, la Normandie et la Bretagne. Ces orages-là aussi seront accompagnés d'averses de grêle. Du sud-ouest à la région parisienne, sur une large diagonale qui coupe la France en deux, eh bien là, nous aurons un temps agité, très orageux. À l'est, rien à signaler, c'est du grand et beau soleil. Les températures, 12 à 21 degrés demain matin, un peu de fraîcheur, tiens, au lever du jour. Dans l'après-midi, 17 à Cherbourg, 18 à Brest, 22 à La Rochelle, 25 à Lille et Rouen, c'est un peu plus frais sur le nord et le nord-ouest. Ailleurs, c'est chaud, 28 à Paris et Limoges, 30 à Nîmes, 32 à Clermont-Ferrand et 34 à Strasbourg, la maximale. Le Rhône, toujours en vigilance orange canicule.
Merci beaucoup, Anissa. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo.
À tout à l'heure.
Europe 1, Isabelle Millet.